Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je vous disais la semaine passée que nous avions, enfin, je vous énumérais les difficultés qu'il y avait à écrire l'histoire avec la multiplication des sources, que le problème des historiens était en général, à part quelques grands noms comme Romila Tapar et Madame Shirin Ratnagar, était que, en général qu'ils lisaient peu les langues autres que l'anglais et pas toujours les langues anciennes, ce qui est quand même un problème. Donc ils n'avaient qu'un accès de seconde main et parfois de troisième main aux documents. Et que les découvreurs qui sont censés connaître les langues et qui souvent les connaissent, en particulier les épigraphistes ou les numismates, sont très forts dans leur discipline, mais malheureusement n'ont pas, souvent pas la formation d'historien. Ça se voit très bien à la lecture d'un certain nombre d'articles d'épigraphie ou de numismatique, où à chaque découverte d'une monnaie ou à chaque découverte d'une petite inscription, on refait la chronologie de l'histoire ancienne indienne, on regarde les dynasties à nouveau, ceci sans aucune vue d'ensemble et sans aucun souci de la prudence. C'est un des grands problèmes de l'histoire, parce que si vous vous en tenez aux documents pour un continent comme l'histoire indienne, si vous en tenez aux documents, votre histoire elle est plus percée de trous qu'un gruyère suisse. Et évidemment, on est toujours tenté de remplir les trous. Mais le résultat, c'est que les discussions entre historiens consistent souvent à combattre des hypothèses dont on n'a aucun mal à démontrer la fragilité ou la fausseté. Mais ça ne fait pas avancer les choses, ça fait simplement, si j'ose dire, augmenter la bibliographie et la difficulté pour les jeunes gens. Je peux vous donner un exemple très simple. Tout de suite après la guerre, M. Dédier a fait paraître une bibliographie de l'art du Gandhara, très très bien faite, une des meilleures bibliographies qui a été faite, avec tous les articles qui étaient là et le résumé des articles. Eh bien, sur ces articles, il doit y en avoir 95% qu'on ne dit plus parce qu'ils sont complètement dépassés et parce qu'ils étaient dépassés dès le départ. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, la pratique actuelle des financements veut que chacun survalorise ce qu'il a trouvé, indique que c'est une découverte d'importance mondiale et se fasse mousser au maximum. Et donc, ça, pour les gens qui n'ont pas l'esprit critique, ça pose un certain nombre de problèmes. L'autre problème, c'est que si il existe encore aux États-Unis, en Europe et au Japon des savants qui, grâce au système universitaire qui avait cours jusqu'à ces dernières années, ont pu avoir le temps de se former et ont eu des crédits pour travailler. Il y en a encore des jeunes qui font ça dans des conditions plus difficiles parce que les financements et les postes sont plus rares. Dans les pays d'où provient la documentation, que ce soit l'Afghanistan, le Pakistan ou la République indienne, la formation des spécialistes a pris énormément de retard. Ce sont des pays pauvres, ce sont des pays qui ont d'autres objectifs que de redécouvrir leur passé ou qui veulent redécouvrir leur passé uniquement dans l'optique de la formation des États modernes et qui donc ne s'intéressent pas beaucoup à une période de l'unité indienne qui pour eux ne représente plus grand-chose. Et ce sont des pays aussi où la pauvreté générale fait que la recherche de l'argent est primordiale. Et ça se voit très bien en Inde, où vous avez un État qui est relativement riche, qui a hérité des Britanniques des universités tout à fait remarquables et des universitaires tout aussi remarquables, qui a développé et multiplié ces universités, mais où l'accent qui, dans les années 47-50, était sur les humanités, est maintenant porté sur la finance, sur la technique, sur la chimie, sur la biologie. Et les gens qui font le métier que je fais, les philologues en particulier, sont relativement décriés, alors qu'ils étaient à la tête de l'élite indienne dans les années 50. Maintenant, ils sont considérés comme des gens relativement sans importance. Et l'État indien, tous ces États ont théoriquement un service archéologique et pour l'État indien également un service épigraphique. Alors évidemment, le service archéologique de l'Afghanistan, qui de façon bizarre a continué à exister après 1978, exactement dans sa structure, et continue à exister, mais évidemment, il ne peut pas faire grand-chose dans l'état d'élitement du pays. Le service archéologique pakistanais est dans la même situation, au point que nos collègues pakistanais, pour avoir des financements, construisent des ONG à capitaux étrangers. Et quant aux services indiens, les archéologues recrutés à un niveau de formation assez bas, comme depuis 1945, c'est-à-dire 2 ans après l'équivalent du baccalauréat, sans études universitaires, ces archéologues sont devenus essentiellement des conservateurs de monuments, ce qu'ils font relativement bien. Des jardiniers, autour de tous les monuments archéologiques indiens, maintenant, vous avez des jardins archéologiques très bien faits. Et le directeur passe son temps à répondre à des interpellations à la Chambre. Et évidemment, dans tout cela, même si les fouilles continuent, la recherche n'est quand même pas très, très favorisée. Et surtout, il y a un effondrement de la publication des inscriptions en Inde et au Pakistan, ce qui fait que l'essentiel de l'épigraphie indienne depuis une quarantaine d'années est assuré par des étrangers, allemands, français et américains surtout. Ce qui ajoute à la difficulté, c'est que, alors qu'en fait ce sont les mêmes pays qui travaillent sur ces questions quasiment depuis 1914, il y a eu une multiplication des publications et donc il n'y a plus de forum commun. Pour les épigraphistes, il y avait avant-guerre, jusque dans les années 50, une institution faite, construite par les Britanniques qui s'appelle l'Epigraphical Survey of India et qui publiait régulièrement un journal dans lequel on trouvait toutes les inscriptions trouvées en Inde, plus souvent la traduction des inscriptions publiées à l'étranger. Par exemple, Luders a publié beaucoup d'inscriptions en allemand. Vous les retrouvez dans la revue de ce service, qui s'appelle Epigraphia Indica, assez facilement. Après 1950, la revue est paru de façon très irrégulière, au point qu'aucune bibliothèque européenne ne sait exactement quel est le dernier numéro paru, sauf aller à Delhi ou téléphoner à Delhi pour savoir. Et la revue s'est fossilisée, c'est-à-dire elle ne publie que quelques inscriptions indiennes, et elle les publie de façon très sommaire, exactement comme elle les publiait en 1930, sans tenir compte du fait qu'il y a des moyens modernes, par exemple la photographie, qui n'apparaît jamais, sans tenir compte du fait qu'on ne peut pas publier une inscription sans publier le monument sur lequel elle se trouve, et avec un système de transcription complètement aberrant, dont je vous reparlerai peut-être en deuxième heure, et en plus, avec très souvent, une étude de l'inscription qui se borne à dire quel est le roi dont il est question, quelle est sa date, et très vaguement ce dont il est question dans l'inscription. Alors, c'est très décevant, ce qui fait que les étrangers et tout ce qui se publie à l'étranger n'est pas repris dans la publication, dont d'ailleurs on ne sait jamais quand elle va paraître. Pour avoir les inscriptions publiées à l'étranger, il faut consulter une vingtaine de revues que d'ordinaire les épigraphistes ne consultent pas et qu'ils ne consultent que lorsqu'ils savent qu'il y a un article d'épigraphie dedans. C'est-à-dire qu'il y a un petit réseau d'épigraphistes, une dizaine de personnes dans le monde, et ils communiquent entre eux par des moyens aussi archaïques que l'envoi de tirés à part. Et si on n'avait pas ces envois de tirés à part ou maintenant ces envois de facsimilés PDF par Internet, on ne saurait pas ce qui se passe. Par contre, les Indiens ont publié un certain nombre de corpus avec 30 ou 40 ans de retard, mais qui sont très, très utiles, mais qui sont faits de manière aussi archaïque qu'Epigraphia Indica. Il n'y a pas non plus de forum commun, c'est-à-dire que les archéologues parlent aux archéologues, les épigraphistes parlent aux philologues, les historiens non indiens n'ont pas envie de perdre leur temps à la grande foire qu'est le congrès annuel de l'Indian Historical Society. Vous avez des tas de gens qui font des discours sans intérêt. Il y a des problèmes de langue, des problèmes de divergence d'intérêt, ce qui fait que la communication entre savants traitant de l'histoire de l'Inde est extrêmement difficile et que la différence se fait entre les gens qui ont accès à la littérature internationale et qui donc sont des gens qui appartiennent à un pays riche qui peut se payer le luxe de bibliothèques et les autres, c'est-à-dire quasiment l'ensemble des savants qui travaillent dans les pays de l'Inde géographique. Il n'y a qu'un seul forum commun qui fonctionne assez bien, peut-être même un peu trop bien, qui sont les congrès qui se tiennent tous les deux ans de la Société européenne pour l'archéologie de l'Asie du Sud, South Asian Archaeology, qui se tiennent dans une ville différente d'Europe tous les deux ans. Et comme c'est le seul forum, les Américains et les Japonais y viennent, les Russes aussi, mais les Russes, il faut les inviter parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas les moyens de venir. Les Indiens, il faut aussi les inviter. Et à ce moment-là, on n'a que les Indiens âgés et non pas les jeunes, puisque c'est le gouvernement indien qui les désigne, même si c'est les organisateurs qui paient le voyage et le séjour. Mais en tout cas, c'est une initiative qui date d'il y a une trentaine d'années des archéologues travaillant en Europe, essentiellement M. Jarige, qui travaillait au Pakistan, et Maurizio Taddei, qui travaillait dans le SWAT. Ça a fonctionné très bien, même trop bien, puisque maintenant c'est quelque chose d'énorme et que les actes de ces congrès paraissent avec 3 ou 4 ans de retard. Mais c'est là quand même que l'on a, pour la période ancienne et en particulier pour les périodes, disons, antérieures à Ashoka, à peu près toute la documentation à peu près fraîche. Alors, je suis moi-même président d'une association qu'on appelle la CECHAC et qui est censée rapprocher des gens qui travaillent sur l'Inde et sur l'Asie centrale, mais elle est encore loin d'avoir pour adhérents tous les historiens et les archéologues et historiens de l'art qui travaillent sur cette région. Mais si vous voulez en faire partie, c'est très simple. Il y a un site internet. Les conséquences de la multiplication des publications, c'est que je pense que même aux États-Unis, aucune bibliothèque n'est complète. Et en Inde, c'est encore plus net. Alors en Inde, les collègues indiens, quand ils veulent travailler, viennent en Grande-Bretagne ou viennent en France ou viennent en Allemagne, et là trouvent peut-être pas tout, mais énormément de tirés à part, en tout cas. Et l'autre conséquence, c'est comme les publications se sont multipliées en Inde et au Pakistan, il est très très difficile d'avoir en Europe les publications locales. En fait, il faut aller sur place, et même sur place, on a du mal à les obtenir parce que la publication est pour les autorités locales un outil de prestige, et ce qui compte, c'est dans un rapport ou dans un congrès de montrer la publication que l'on a sortie, mais la diffusion ne suit pas. Alors, quand la publication est de Delhi, vous la trouvez. Quand elle est d'une petite université indienne, vous ne la trouvez pas, y compris sur place. L'autre, et donc ça aussi, ça ajoute à ce que je disais tout à l'heure, les gens travaillent en réseau, et les réseaux sont faits de gens qui se connaissent, donc de gens relativement anciens. Et pour les jeunes gens, les chercheurs qui sont quand même l'avenir de la discipline, ce ne sont pas les gens de mon âge qui sont l'avenir, ce sont les jeunes, il est très très difficile d'entrer dans ces réseaux s'ils ne sont pas eux-mêmes des étudiants de tel ou tel. Ce n'est pas une situation qui est extrêmement saine. Ça ne permet pas beaucoup le renouvellement des idées. Alors, l'autre problème qui se pose, et qui est un problème d'ailleurs dont on pourrait parler en deuxième heure, c'est que en Afghanistan et au Pakistan, beaucoup moins en Inde, il y a un effondrement des structures étatiques. Le gouvernement afghan, déjà avant 1978, ne contrôlait qu'une petite partie du pays. Depuis 1978, cette partie du pays qu'il contrôle est encore plus petite. Et bien, c'est un gouvernement qui est faible, dans une guerre civile. Il ne peut absolument pas résister aux pressions locales quand elles sont menées par des chefs de bande qui sont parfois mieux armés que l'armée afghane. Et puis, ce n'est pas sa priorité. Au Pakistan, c'est la même chose. Et vous avez une énorme pression foncière. Pression sur le foncier parce que vous avez une population qui, en Inde et au Pakistan et en Afghanistan, ne sait absolument pas ce que c'est que le contrôle des naissances, ce qui fait que la population indienne sera passée de 700 millions d'habitants environ il y a une dizaine d'années à 1,5 milliard dans quelques années. La ville de Kaboul, qui comptait dans les années 70, environ 300 000 habitants. Maintenant, on estime sa population à 3 millions. La ville de Peshawar a triplé ou quadruplé sa surface. Donc, entre l'explosion démographique et la fuite des paysans vers les villes, parce que la guerre s'est installée chez eux, soit parce que dans les villes, on vit quand même un tout petit peu mieux que dans les campagnes, même si on y vit très mal, fait que vous avez une énorme pression sur le foncier, des constructions de maisons, des constructions d'équipements collectifs aussi, des routes. Et donc, chaque fois qu'on creuse le sol, on risque de trouver quelque chose. Il y a donc eu une explosion de la découverte fortuites d'antiquités qui sont passées dans le marché des antiquités et qui se retrouvent, selon leur valeur, sur les marchés internationaux de Londres, de Zurich ou du Japon. Il y a toujours eu des trouvailles fortuites, il y a toujours eu des exportations illégales d'antiquités, bien que tous ces pays aient une loi sur les antiquités très bien faite. Mais il y a véritablement une explosion depuis une vingtaine d'années, auquel s'ajoute, puisque le marché des antiquités rapportent d'une part des faux et d'autre part, dans certains endroits, des fouilles systématiques à la recherche de trésors. C'est ce qui s'est passé, par exemple, en Afghanistan, après la découverte fortuite de ce qu'on appelle le deuxième trésor de Mirzaka, qui est un trésor de millions de monnaies, probablement enfoui dans un temple. Les commandants locaux de Moudjahidine se sont mis à fouiller tous les sites archéologiques avec les détecteurs de mines, les détecteurs de métaux, et vous avez un certain nombre de sites qui ont été véritablement détruits. Alors évidemment, il est facile de dire qu'il n'y aurait pas de trafic d'antiquités s'il n'y avait pas de collectionneurs. C'est une vision qui est à la fois vraie et fausse. Il est clair qu'il y a un trafic d'antiquités parce qu'il y a des gens qui les achètent et qui les payent très cher. Mais s'il n'y avait pas les gens qui les achètent et qui les payent très cher, ces antiquités seraient immédiatement détruites. Dans les pays musulmans, toutes les images du Bouddha seraient détruites comme elles l'étaient avant. Et dans tous les autres pays, les trésors monétaires ou les statues en bronze seraient immédiatement fondus pour alimenter le bazar et pour faire disparaître les traces de la trouvaille. Si ces antiquités arrivent un jour au jour, si j'ose dire, si on les connaît un jour, c'est parce que les gens maintenant savent qu'elles ont une valeur et donc il y a partout, dans tous les villages, des réseaux de rabatteurs qui savent très bien que lorsqu'on trouve une monnaie en or ou une monnaie en argent, il ne faut surtout pas la fondre, mais il faut essayer de la vendre. Et donc, de cette manière, même si on perd tout sur les circonstances de la trouvaille, ce qui est important en particulier pour les monnaies, en tout cas, on a les objets. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de trafic, mais il n'y aurait pas d'objets non plus, parce que de toute façon, les objets, on les trouve surtout dans des chantiers de construction de maisons et pas parce qu'on les cherche systématiquement. L'expérience de l'archéologie montre que lorsqu'on cherche systématiquement un trésor, on a beaucoup moins de chances de le trouver que si on que du fait du hasard. Alors, malgré tout, et ça sera le sujet véritable du cours, il y a de très gros résultats. Vous verrez que l'image que nous avons de l'histoire indienne est complètement changée par rapport à celle que l'on possédait en 1947. Mais dans l'interprétation et dans la présentation des faits, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une aggravation de la différence de vision entre la vision des savants indiens ou pakistanais et la vision des savants européens ou américains. C'est au point que parfois on se demande si on est dans le même monde. C'est accentué par le fait qu'un certain nombre d'historiens indiens ou pakistanais ont une vision nationaliste. Les Européens, les Américains, ils ont parfois une vision de supériorité, mais on ne peut plus dire qu'ils aient une vision colonialiste. Les colonialistes européens des années 50 ont disparu. La dichotomie entre nationalisme et colonialisme, disons qu'elle est quand même, c'est quand même pas l'essentiel. De même, la dichotomie sur l'interprétation avec des Indiens qui, pendant très longtemps, sont restés marxistes, doctrine contre laquelle je n'ai rien, mais qui appliquaient un marxisme tout à fait mécanique, alors que les Européens ne se préoccupaient pas de ce système. La dichotomie, en fait, tient surtout à des divergences sur les faits, sur les datations, sur la connaissance réelle des faits et sur l'importance relative des faits. C'est-à-dire que c'est une divergence qui tient d'abord à l'inégalité des connaissances qui correspond à une égalité économique. Si vous n'avez pas, si vous n'habitez pas dans un État qui peut se payer de grandes bibliothèques et qui peut se payer des institutions comme le Collège de France, vous ne pouvez rien faire. Et puis, ça tient aussi au fait que l'histoire en Inde et au Pakistan est une question politique très, très importante qui, parfois, donne des œillères aux gens. Alors, nous allons passer aux résultats. Alors, les résultats ont beaucoup changé depuis quelques années. Si vous regardez un manuel qui a été, par exemple, un manuel comme le manuel des études indiennes, qui est un livre tout à fait remarquable, de Renaud Filiosa, qui est paru tout de suite, l'un pendant la guerre et l'autre tout de suite après la guerre, et qui donne donc l'état des connaissances un peu avant 1940, vous verrez que l'histoire de l'Inde très ancienne que l'on vous présente est très différente de celle que je vais vous présenter. Je ne vous parlerai pas d'une situation que je connais relativement peu, qui est celle des populations paléolithiques et néolithiques, sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Pour une raison simple, disent les philologues, c'est que comme il n'y a pas de texte, il suffit de savoir dessiner un caillou et l'interpréter pour comprendre les choses. C'est peut-être une chose un peu un peu grossière, mais il est vrai que l'archéologie en général, après 68 en particulier en France, s'est beaucoup développée autour de l'archéologie préhistorique, c'est-à-dire par typologie de cailloux, par typologie d'outils de bronze, par typologie de céramique, toutes choses qui ne demandent pas des connaissances linguistiques énormes. Mais les Indiens ont fait la même chose, plus tôt même, et pour les mêmes raisons. Et évidemment, les spécialistes commencent à mieux voir les peuplements au paléolithique et au néolithique. Ce sont des choses que je ne connais guère et dont je ne parlerai pas. La seule chose qui est vraiment nouvelle et qui est même inquiétante, c'est que désormais, on est capable de restituer l'ADN ancien et que ceci a amené un certain nombre de savants, comme dans le monde entier, à essayer de reconstituer les migrations, disons, de l'époque de 15 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire le premier peuplement du continent indien. Alors, quand on est jusque-là, si vous voulez, je vous parlerai un jour de ce que je pense de ces analyses. Le problème, ce n'est pas les découvertes que font les biologistes dans leur laboratoire en faisant des cartes de gènes. Le problème, c'est l'interprétation que l'on en donne. Et c'est quelque chose qui me fait terriblement peur, y compris pour l'Europe, parce que les interprétations que l'on en donne dérivent très rapidement sur le racisme. C'est ainsi qu'il y a eu en Inde toute une série d'études publiées dans des grandes revues pour essayer de montrer que le peuplement originel était fait de brahmanes à la peau blanche. Et évidemment, les gens du Sud ont sorti d'autres études à partir des mêmes données pour prouver le contraire. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dangereux. Si les nazis avaient utilisé cet outil, vous voyez ce que ça aurait pu donner. Pour les périodes les plus anciennes, qui théoriquement ne portent pas sur le peuplement actuel de l'Inde, puisque le peuplement actuel de l'Inde, pour la majeure partie des Indiens, commence véritablement avec l'arrivée des Indiens. Maintenant, je vous en parlerai tout à l'heure, ça commence des Indo-Européens, et maintenant, ça commence un peu plus tôt. Mais pour les périodes très anciennes, nos collègues, disons, archéo-historiens, voient qu'il y a deux vagues de peuplement venues d'Afrique, l'une par deux continents et l'autre le long des côtes. Alors quand vous regardez ça d'un peu loin, d'un peu haut, vous dites que c'est beaucoup d'argent dépensé pour rien, car il est bien sûr qu'il y a eu une pénétration du continent indien par des populations venues d'Afrique, si l'on admet la théorie qu'il y a une seule source, une seule souche humaine. S'il y a une seule souche humaine d'Homo sapiens, ils viennent nécessairement d'Afrique. S'ils viennent d'Afrique, ils n'ont que deux voies pour venir en Inde. Alors évidemment, s'il y a une source indépendante, comme certains le pensent maintenant en Chine, ça pose d'autres problèmes. Mais en tout cas, si l'on en reste à une source unique, il est clair qu'il y a deux voies possibles. Et il est clair aussi que depuis qu'il y a des hommes en Inde, il y a eu des arrivées successives de migrants, envahisseurs ou pas. Et rien qu'à l'époque historique, on peut en donner une au moins par siècle. Alors, qu'il y en ait eu deux il y a 10 000 ans ou 12 000 ans, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce qui change, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant actuellement dans la culture indienne et dans la politique indienne, qui est la place du Veda et la place de ceux qui ont apporté le Veda en Inde ou qui, nés en Inde, l'ont créé. Vous savez que le Veda est un recueil d'hymnes en sanskrit très archaïque, extrêmement difficile à interpréter, parce que, non seulement parce que la langue n'est pas très facile, mais surtout parce que ce sont des hymnes qui, la plupart, ont été composés dans un style volontairement hermétique, qu'en plus, c'est une collection d'hymnes séparés qui étaient utilisés dans la liturgie. Et que, comme Esterman l'a montré, l'usage de ces hymnes dans la liturgie telle qu'elle est représentée par les brahmanas au 7e, 8e siècle, l'usage de ces hymnes ne correspond pas à l'usage du moment où ils ont été créés. Donc vous avez une triple difficulté. La première, c'est que nous ne savons pas dans quel contexte et pour quel type de sacrifice ou simplement de chants de remerciement ils ont été créés. Le second, c'est qu'on ne sait pas si la liturgie telle que la décrivent les brahmanas ou la décrivent plus tard les Shrauta Shastra, est une clé d'interprétation de ces hymnes. Et la troisième difficulté, c'est que ces hymnes ont toujours été maintenus en Inde, mais que les commentaires, et en particulier le dernier commentaire, qui est celui de Shayana, sont très tardifs, et que la valeur de ces commentaires est très disputé. C'est à peu près le même problème que pour l'Avesta. Alors, pour les Indiens, pour les Indiens pieux, les Indiens très hindous, les Védas sont un texte éternel qui est un texte révélé et qui s'impose non seulement aux hommes, mais aux dieux. Toute la religion hindoue découle du Veda. C'est un texte dont on peut dire qu'il a la valeur de la Bible, en tout cas du Pentateuque, et du Coran. Et c'est un texte qui est utilisé aujourd'hui par l'extrême droite indienne, nationaliste, pour dire que c'est la base de la culture indienne et que seuls les hindous sont de véritables indiens et que l'on est véritablement hindou quand on suit les prescriptions du Veda. Alors évidemment, les Européens ne partagent pas ce point de vue. Pour eux, un texte est toujours une production humaine. On peut ensuite supposer que quelqu'un a dicté ça à un prophète, mais le prophète est en tout cas un homme. Et si c'est une production humaine, il faut d'abord le dater, essayer de savoir où ça a été fait, et puis essayer de le comprendre à partir de lui-même, et pas nécessairement à partir des commentaires. D'autant plus que dès que l'on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de continuité dans les rites indiens, même si, en apparence, ils sont les mêmes. Alors, ça fait une première différence. La seconde chose, c'est que pour les Européens, depuis le XIXe siècle, la langue du Rig Veda, qui est un sanskrit très archaïque, présente, et c'est un fait avéré, des analogies très importantes avec le grec le plus ancien, avec le mycénien, avec l'iranien le plus ancien, celui de l'Avesta ou celui des inscriptions de Darius, et que, manifestement, toutes ces langues appartiennent à un même groupe de langues qui s'est séparé à diverses époques, mais qui sont des langues qui, disons, au troisième millénaire avant notre ère, devaient être à peu près intercompréhensibles. La conséquence de ceci, c'est que l'interprétation du Rig Veda se fait pour les Européens quasiment sans recours aux commentaires indiens, encore que quelques collègues y reviennent, en toute petite partie par l'étymologie, qui est une discipline très, très douteuse parce que deux mots peuvent avoir la même étymologie et avoir des sens très différents, et aussi, et surtout par ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire par la comparaison de l'usage des mots et des phrases à l'intérieur du texte, et également, on retrouve des phrases quasiment identiques dans des textes grecs et iraniens. Alors, ça donne une interprétation douteuse, mais très différente, en tout cas, de l'interprétation indienne. Et puis, pour le problème de la datation, les Européens ont cherché beaucoup de choses. D'abord, une datation par les événements astronomiques qu'ils croyaient lire dans les hymnes du Rig Veda. Et ça aboutit à une datation de Jacobi qui donnait 4000 avant notre ère et que les Indiens savants se sont empressés de reprendre à la fin du XIXe siècle. Pour des raisons que je n'expliquerai pas ici, cette datation qui repose sur des éléments astronomiques n'est pas tenable. Et disons que l'accord des savants depuis plusieurs années porte sur une supputation très, très simple et même très grossière qui consiste à dire que la parole du Bouddha, manifestement, reprend des éléments ou correspond à des éléments qui se trouvent dans les Upanishads anciennes. Les Upanishads anciennes sont en gros datées, enfin, la parole du Bouddha est en gros datée à l'époque de 600 avant notre ère. Les Upanishads sont datés de 600 avant notre ère. Les Upanishads, manifestement, montrent une évolution de la pensée et de la langue par rapport à des textes qu'on appelle les Aranyaka, et on datera au pif les Aranyaka de 800 avant notre ère ou de 700 avant notre ère. Avant les Aranyaka, vous avez des textes plus importants, en sanskrit encore plus archaïques, qu'on appelle les Brahmana. Donc on les datera 200 avant, on arrive à 800-900, et le Rig Veda est plus ancien, donc on arrive aux alentours de 1100 pour la collection des hymnes du Rig Veda telle que nous l'avons maintenant, et donc pour la création des hymnes à une période antérieure, puisque le Rig Veda est une collection d'hymnes qui a été réunie avant. Alors, tout ceci est douteux, d'autant plus que depuis la date du Bouddha a été révisée et abaissée d'un siècle ou deux, mais ça tient encore, en tout cas ça tient beaucoup mieux que 4000, et les gens tablent en gros sur une date de la compilation des hymnes du Rig Veda aux alentours de 1100. Vous verrez tout à l'heure combien ça change. Alors ceci, encore une fois, jusque dans les années 50, c'était des discussions entre érudits, parce que, évidemment, les brahmanes indiens, d'une part, ne lisaient pas ces discussions, et d'autre part, s'en fichaient complètement. Quand vous êtes croyant, vous n'avez strictement ce que des savants de Londres ou d'Oslo peuvent raconter sur votre texte religieux le plus saint, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui compte, c'est la tradition qu'on vous a enseignée. Donc, ça ne posait aucun problème, c'était des discussions entre spécialistes. Ce qui a changé, c'est depuis une dizaine d'années qu'un certain nombre d'Indiens, en général d'ailleurs des immigrés, souvent des immigrés aux États-Unis, ont repris cette question et défendent l'honneur indien contre la malveillance des étrangers non hindous, qu'il y a des controverses extrêmement violentes, des demandes d'interdiction de livres. Par exemple, la minorité indienne aux États-Unis très régulièrement fait des procès pour que dans les manuels des écoles secondaires américaines, les références à l'histoire ancienne de l'Inde qui sont tirées d'un manuel classique soient changées par des passages qui reflètent l'opinion traditionnelle des brahmanes et la plus traditionnelle des brahmanes. C'est un mouvement tout à fait parallèle à celui des islamistes qui protestent dès qu'une interprétation, disons européenne, ou en tout cas non musulmane, stricte du Coran, apparaît quelque part. Alors c'est vrai, c'est devenu donc quelque chose d'extrêmement difficile, d'autant plus que puisque pour ces gens, le Rig Veda est une parole éternelle, intangible, qui vient du ciel, et que, bien qu'ils ne le disent pas sous cette forme-là, mais ils le pensent très fortement, la classe des brahmanes représente ce qu'il y a de plus proche de cette parole, il est bien évident que cette parole ne peut pas venir de l'étranger. Et donc, les brahmanes sont autochtoniques en Inde, ils ont toujours été en Inde, et le sanskrit n'y a pas été apporté. Il a été au contraire exporté, et c'est le sanskrit qui a créé le grec, le latin, le vieux russe, le hittite, ces choses-là. Ce n'est pas une exagération. Vous avez toute une série de livres, parfois certains bienfaits, qui le disent. Pour les Européens, la question ne se pose pas de cette manière. Les Européens, depuis la fin du XVIIIe siècle, au moins sur ce point-là, se comportent en agnostique. Un texte est un texte, et il faut savoir d'où il vient. Le Rig Veda étant analogue à la langue du Rig Veda ayant des analogies très fortes avec la langue ancienne de la Grèce, et la langue encore plus ancienne représentée par les textes mycéniens, ayant des analogies, y compris avec le hittite, qui est une langue encore plus anciennes que les textes mycéniens, donc ça nous remet vers 1500 avant notre ère, ayant des analogies avec l'Avesta, cette langue n'est certainement pas une création éternelle. C'est une langue qui, en plus, a évolué. Et le tout est de savoir d'où sont partis les gens qui ont apporté cette langue en Inde. Il faut bien dire que les Européens ne se sont jamais posé la question de savoir si cette langue aurait pu sortir de l'Inde. Alors, depuis le début du XIXe siècle, on cherche ce qu'on appelle l'habitat originel des Indo-Européens. Cet habitat originel, il a varié du pôle Nord, par exemple pour un Indien qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Orion de Tillac. Il y en a encore quelques-uns qui parlent de ça. Mon collègue Audry, il y a quelques années, a fait paraître un petit que sais-je, très raciste, mais très bon, mais sauf les dernières pages racistes, où les Indo-Européens étaient des grands blonds aux yeux bleus, exactement comme les Norvégiens et comme les nazis les imaginaient. Et puis, alors maintenant, on est passé à un tout autre endroit. On est passé à la Sibérie et même à l'ouest de la Sibérie, après une étape dans les Balkans. Effectivement, on ne sait pas d'où ils sont passés. Les Européens se sont jamais dit que cette langue qui est dite indo-européenne ou que les Allemands appelaient indo-germanisch aurait pu venir de l'Inde. Or, il est tout à fait clair que, sur le papier au moins, elle aurait pu venir de l'Inde. Rien n'empêche sur le papier qu'un mouvement qui va de A à B n'aille de B à A. Et on a un exemple tout à fait historique qui est celui des Tziganes qui ont quitté le Rajasthan vers le 6e, 7e siècle et qui sont arrivés partout en Europe et dont la dernière vague est en train de venir en France, ce qui est la vague des Tziganes roumains, et qui ont encore dans leur vocabulaire environ 400 mots d'origine indienne. Donc c'est tout à fait possible, sauf qu'il n'y a véritablement aucune trace de cette migration en sens inverse, alors qu'il y a des traces historiques relativement importantes de la migration, disons, d'un point situé au nord de l'Europe ou en Sibérie, vers le sud. Et qu'effectivement, je ne suis pas indo-européen, mais si j'habitais un pays froid, je préférais aller dans un pays chaud comme l'Inde, plutôt que de quitter une Inde relativement fertile pour me retrouver en Norvège ou dans la steppe sibérienne. Du point de vue strictement logique des arguments, les deux thèses peuvent se défendre. Si l'une paraît mieux argumentée que l'autre, c'est parce que l'une, la thèse de l'habitat indo-européen originel quelque part en Europe, c'est une thèse qui a été élaborée pendant deux siècles par les meilleurs savants européens, alors que l'autre est proposée depuis simplement une quinzaine d'années par des Indiens qui sont souvent des amateurs. Mais pour l'instant, les faits que l'on connaît, même s'ils ne sont pas décisifs, montrent que le mouvement s'est fait du nord vers le sud et pas du sud vers le nord. En particulier, c'est la seule manière d'expliquer les analogies entre la civilisation iranienne et la religion iranienne ancienne et la religion indienne ancienne. Alors, ceci pour vous dire un peu quelle est l'importance du Veda et quelle est l'importance comme point de départ d'une histoire indienne ancienne pour les Indiens, mais aussi pour les Européens. Parce que ne croyez pas que les Européens ne soient pas passionnés par les Aryens, hein, au contraire. Si vous regardez des livres écrits avant 1925, par exemple, un très bon manuel qu'on utilise encore, qui est la Cambridge History of India, qui a commencé à paraître en 1914, il y avait dans un chapitre très court sur les chasseurs paléolithiques et néolithiques de la vallée du Gange, des gens qui, de toute façon, n'avaient pas beaucoup d'importance, Ils étaient encore moins civilisés que les populations dites tribales de l'Inde, les Bils du Rajasthan ou les Oraon de la région de Chhattisgarh. L'Inde commençait avec l'arrivée des Indo-Européens en Inde, dit Indo-Aryen, puisque Arya était le mot dont on considérait, on considérait qu'ils se donnaient le nom d'Aryen, et comme ils étaient tous Aryens, on distingue donc les Aryens de l'Inde par le nom de Indo-Aryen. C'est l'arrivée de ces Indo-Aryens était le point de départ de l'histoire réelle de l'Inde. Ces Aryens étaient imaginés comme des guerriers. C'est très typique des années du 19e siècle et du début du 20e siècle. On est avant la guerre 14. C'était des guerriers. Et c'est pour cela qu'on parle toujours, encore maintenant, de l'invasion des Indo-Européens en Inde. Et c'était des nomades qui poussaient leur bétail en avant à la recherche de nouveaux pâturages. Personne n'expliquait, d'ailleurs personne n'explique toujours, comment on peut passer l'Hindou-Kouche de cette manière. Et c'est eux qui parlaient un langage qui est le langage des hymnes védiques et qui allait devenir plus tard le sanskrit classique. Et l'on admet, c'est une reconstruction, mais relativement une simplification, mais une simplification relativement vraisemblable. Et l'on admet que ce sanskrit est l'ancêtre de tous les langages de toute l'Inde du Nord. Par une intermédiaire qu'on appelle le moyen indien ou le prakrit, celui des inscriptions de Bharat, dont je parlerai tout à l'heure, ensuite la Pabramsha, et c'est donc le langage c'est l'ancêtre du hindi, du gujarati, de la marathi, du bengali. Et vous voyez tout de suite ces langages se sont étendue au travers des siècles. On suit ça très bien sur la carte. Au dépens d'une autre famille de langages extrêmement différents qu'on appelle les langages dravidiens, qui sont aujourd'hui le tamoul, le malayalam, le telugu, etc. Et puis une troisième famille, les munda, mais ils sont si peu civilisés que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Alors, vous voyez aussi pourquoi, dès le 19e siècle, les gens du Sud n'ont pas beaucoup accepté cette théorie et ont considéré que, au contraire, les vrais civilisateurs de l'Inde, c'était les Dravidiens. Alors, dans la littérature européenne, donc ces Aryas ou ces Indo-Aryens, qui étaient évidemment les cousins très très lointains de ceux qui écrivaient ces histoires, de façon très bizarre d'ailleurs. Un certain nombre de gens qui écrivaient cela étaient des juifs qui n'avaient rien à voir avec les Indo-Aryens, on leur a rappelé par la suite. Ces Européens étaient incapables de penser qu'il y avait eu une civilisation en Inde avant l'arrivée des vrais civilisés, c'est-à-dire des Indo-Européens. Les Indo-Européens, c'est les Grecs, les Latins, ça c'est de la grande civilisation. Et donc c'était les Aryens qui avaient amené la civilisation, une civilisation caractérisée par un langage tout à fait parfait, car effectivement le sanskrit, d'une certaine manière, a toujours fasciné les linguistes par sa relative simplicité. Et qui non seulement avait donc un langage parfait, qui avait une organisation sociale très structurée, qui allait donner la société en castes, et qui avait une religion dont les prêtres étaient avant tout des poètes, qui composaient des hymnes avec une technique extrêmement élaborée, et un usage du vocabulaire extrêmement habile et en jouant sur les mots pour accroître l'hermétisme, ce dernier point étant toujours accepté. Évidemment, les hindous traditionnels n'acceptaient pas cela pour une raison très claire, c'est qu'ils ne les lisaient pas. Mais il y a un certain nombre d'hindous qui, au XIXe siècle, si vous voulez, acceptaient la modernisation. Je vous parlais de Tilak tout à l'heure, mais tous les grands historiens hindous du XIXe siècle et du début du XXe siècle étaient sur cette position. Et l'intelligentsia indienne éclairée des années 50, 60, 70 acceptait et accepte toujours en partie cette position. Par contre, les hindous traditionnels se fichaient complètement des traductions du Veda données en Europe, d'autant plus que très souvent elles sont incompréhensibles. Je vous défie, si vous n'êtes pas un spécialiste, de comprendre la traduction de Renou du Rig Veda, qui n'est pas complète, ou celle qui est complète de Gellner. D'abord, pour Gellner, il faut très bien connaître l'allemand, et ensuite se demander ce que ça veut dire. Mais effectivement, tout le monde en Inde était très fier du sanskrit, tout le monde était sûr que le sanskrit est un langage parfait, que les hymnes du Rig Veda sont le summum de la sophistication, que, évidemment, ils ont une signification ésotérique qui est valable pour tous les temps, et qu'ils étaient la base de la civilisation, au moins jusqu'à l'arrivée catastrophique des musulmans. Eh bien, tout ceci a changé en 1924, et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, en anglais.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.